Vous écoutez, on lit pour vous.
Intégration des femmes immigrantes, en parler pour faciliter les choses. Un texte de Geeta Anand, paru le 16 mars 2025 dans L'Eau vive. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, le service d'accueil et d'inclusion francophone de la Saskatchewan, SAIF-SK, a organisé un après-midi entre femmes afin de parler de santé mentale, mais surtout pour faire le point sur l'intégration des femmes immigrantes. On a tendance à tenir pour acquise notre santé mentale. Pourquoi? Peut-être parce que nous n'avons pas toujours les mots pour en parler. Peut-être parce que dans notre entourage, dans nos cercles, c'est tabou. À Lancy, Francine Proux Kensley, formatrice et consultante certifiée en premiers soins en santé mentale. La rencontre a vite évolué vers une discussion sur les défis que rencontrent les femmes immigrantes dans leur intégration dans la province. Pour la consultante, l'enjeu était de donner à ces femmes des outils concrets en vue de s'aider soi ou autrui, de réduire les tabous et la stigmatisation, et d'accroître leur compréhension personnelle en matière de santé mentale. Une nouvelle vie. Le déménagement vers un pays étranger est souvent synonyme de grand stress pour ces femmes. Si chacune le vit différemment, plusieurs facteurs de difficulté sont communs. Francine Proux Kensley a ainsi incité les participantes à lâcher prise pour mieux s'ouvrir à de nouvelles expériences. Une adaptation pas toujours aisée. Cette notion de prendre soin de soi est clé pour s'intégrer. J'ai connu des femmes immigrantes qui ont vécu des déclins dans leur bien-être mental, par exemple avec des symptômes de dépression. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas une faiblesse, c'est la réalité, souligne la consultante. Alors, comment faire? L'experte en santé mentale a insisté sur l'importance de bien s'entourer, soit en se confiant à des proches ou à un cercle de soutien, voire en consultant un professionnel de la santé. En parler est vraiment important. Refouler ses sentiments ne peut qu'empirer la situation, insiste l'animatrice. Une participante illustre ses propos de par son expérience. « Ça fait 3 ans que je suis au Canada, mais je ressens toujours ce manque d'appartenance. Avant de commencer mon travail actuel, c'était très dur. Je ne voyais presque personne et j'étais au bord de la dépression. » Bien s'entourer. Pourtant, ces femmes peuvent notamment compter sur les organismes communautaires, dont le SAIF, qui joue un rôle de première ligne dans l'établissement des nouveaux venus. On reçoit tous les jours des nouveaux arrivants, des familles avec enfants ou juste des couples. L'intégration des enfants, dans la majorité des cas, n'est pas un problème. Les hommes, eux, se retrouvent plutôt facilement. Mais la femme est toujours un peu plus réservée et a du mal à trouver sa place, notent les membres du SAIF. Ainsi, le SAIF organise-t-il des réunions spéciales femmes pour leur donner l'occasion de souffler, mais aussi de se retrouver entre elles et tisser des amitiés. Le réseau santé en français, RSFS, offre quant à lui un service gratuit de ligne d'écoute empathique, accessible en tout temps. D'autres associations peuvent aider les nouvelles arrivantes à trouver leur place dans ce nouvel environnement qu'est la Saskatchewan. Une participante à un cercle de conversation témoigne. « Il y a quelques mois, j'ai décidé de me faire aider par un professionnel, mais en cachette, car j'avais honte et peur d'avoir une étiquette sur mon dos. Aujourd'hui, j'en suis même fière et je peux le partager haut et fort. » Une autre participante se dit, elle aussi, ravie d'avoir trouvé de l'aide. Quand je suis arrivée au Canada il y a 6 mois, je me battais avec moi-même pour surmonter ces problèmes d'intégration, pensant que j'étais la seule responsable et que personne ne pouvait m'aider. Aujourd'hui, je découvre qu'il y a beaucoup de ressources, que ce soit des centres d'intégration, des professionnels de santé ou encore des femmes comme moi avec qui je peux simplement échanger. Alors merci. Je pourrais même dire qu'aujourd'hui est l'un des plus beaux jours de ma vie, conclut-elle avec émotion. L'événement était organisé en partenariat avec l'Association communautaire Françaiscoise de Regina, ACFR, le Réseau santé en français de la Saskatchewan, RSFS, et l'Association des parents Françaiscois, APF. C'était « Intégration des femmes immigrantes, en parler pour faciliter les choses ». Un texte de Gita Anan, paru le 16 mars 2025 dans L'Eau vive.
Contre l'insomnie, gare à l'automédication. Un texte de Paul Thérien, paru le 4 mars 2025 dans Québec Science. L'insomnie affecte la santé physique et mentale de 16 % de la population. Parmi ces gens, trop s'auto-traitent inefficacement malgré l'existence de meilleurs traitements. Au Canada, près d'une personne sur 6 souffre d'insomnie. C'est ce que révèle une étude du Consortium canadien sur le sommeil dirigé par Charles Morin de l'École de psychologie de l'Université Laval et du Centre de recherche Cerveau et publiée dans Sleep Medicine en décembre 2024. Parmi ces personnes qui présentent des difficultés à s'endormir ou à rester endormies, 46 % ont utilisé des produits pour aider au sommeil au cours des 12 mois précédant l'enquête. C'est presque le double d'il y a 16 ans, précise Charles Morin. On note également que plus de 16 % des sujets de l'étude ont utilisé des produits dérivés du cannabis pour mieux dormir. Les recours thérapeutiques sans ordonnance, comme le cannabis, l'alcool, les médicaments, peuvent améliorer le sommeil à court terme, mais une utilisation chaque nuit sur une période prolongée leur fait perdre leur efficacité, indique le chercheur. Et ce n'est bien sûr pas anodin. En première ligne pour traiter l'insomnie chronique, la thérapie cognitivo-comportementale contre l'insomnie, TCCI, donne les meilleurs résultats. Cela fait 30 ans que je travaille là-dessus. Dans les 5 dernières années, elle a finalement été reconnue comme le traitement de choix pour l'insomnie. Il faut être patient avec ce traitement, mais les gains obtenus sont durables, contrairement à ceux des somnifères, dit Charles Morin. La TCCI consiste en une psychothérapie de quelques semaines qui vise à déconstruire les comportements et les croyances à l'origine de l'insomnie. Il a été démontré que cette intervention améliore le sommeil de plus de la moitié des personnes qui l'essayent. Toutefois, elle est peu accessible. Dans une lettre ouverte publiée récemment dans Le Devoir, une 50aine de scientifiques et de membres du personnel de la santé ont plaidé pour un remboursement de ce traitement par la RAMQ. Son premier auteur, Tian Tan Dang Vu, neurologue et chercheur à l'Institut de gériatrie de Montréal et professeur à l'Université Concordia, déplore le peu d'accès à la TCCI pour les personnes ayant peu de moyens financiers, vivant en région éloignée ou n'ayant pas d'assurance privée. Avec une équipe de recherche à Concordia, il a contribué en 2024 à une étude pilote démontrant les bienfaits de la TCCI et de l'exercice physique chez les patients souffrant d'apnée du sommeil et d'insomnie. Il serait bien de développer une première ligne d'intervention contre l'insomnie, testée et validée par des études scientifiques comme des capsules sur le web, conclut-il. Au Canada, le fardeau économique de l'insomnie se chiffre à 1,9 milliard de dollars par année. C'était « Contre l'insomnie, gare à l'automédication », un texte de Paul Therrien, paru le 4 mars 2025 dans Québec Science.
Lits dans les CHSLD privés conventionnés sont à risque de fermer, alerte l'AEPC. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 17 février 2025 dans Le Devoir. Faute de financement adéquat, 1200 des 7600 lits qui existent dans les CHSLD privés conventionnés, c'est-à-dire subventionnés par l'État, pourraient fermer, avertit l'association qui représente les propriétaires de ces établissements. L'augmentation des frais de fonctionnement, dont ceux qui sont liés à la nourriture et aux équipements, fait mal aux propriétaires des centres de soins de longue durée, souligne Annick Lavoie, directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés, AEPC. À l'approche du dépôt du budget 2025-2026 du Québec, le regroupement demande donc au gouvernement de le financer adéquatement afin qu'il soit en mesure d'offrir un milieu de vie de qualité aux aînés qui sont vulnérables. Nous voulons être capables d'acheter des légumes et des fruits frais plutôt qu'en conserve, illustre-t-elle. Le fait d'avoir une bonne alimentation est crucial pour les personnes âgées qui ont une santé fragile, soutient Mme Lavoie. Quant à la fermeture de 1200 lits, elle aurait des conséquences importantes, affirme-t-elle. Présentement, il y a des listes d'attente importantes pour les gens qui veulent entrer en hébergement. C'est sûr que si on vient ajouter 1200 personnes à ces listes, ce n'est pas glorieux. Jointe par Le Devoir, la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, a dit avoir demandé à son équipe de rencontrer rapidement l'AEPC pour bien comprendre les enjeux. Elle ajoute poursuivre le conventionnement des établissements privés dans la province. À l'heure actuelle, 19 des 37 CHSLD privés que Québec s'est engagé à conventionner d'ici 2025 sont désormais financés par l'État. En mai 2022, dans un rapport sur les nombreux décès survenus dans des centres d'hébergement pour aînés au début de la pandémie de COVID-19, la coroner Jeanne Kamel avait recommandé le conventionnement de tous les CHSLD privés. C'était 1200 lits dans les CHSLD privés conventionnés sont à risque de fermer, alerte l'AEPC. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 17 février 2025 dans Le Devoir.
Montréal à travers la lentille de Suzanne Girard. Une entrevue réalisée par Richard Burnett, paru le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue. Suzanne Girard, militante montréalaise et photographe de renom, est à l'honneur dans la nouvelle exposition collective « Battre le pavé, la photo de rue à Montréal », qui débutera le 16 avril au musée McCord Stewart. Tirée principalement de la célèbre collection de photographies du musée McCord Stewart, l'exposition « Battre le pavé » présente l'histoire de la photographie de rue telle que pratiquée à Montréal du 19e siècle à nos jours, avec plus de 400 photographies de 30 photographes. De nombreuses photos de Suzanne Girard sont aujourd'hui conservées dans la prestigieuse collection de photographies du musée McCord Stewart. La professeure de photographie, aujourd'hui âgée de 75 ans et retraitée du collège John Abbott, où elle a enseigné pendant 25 ans, a également joué un rôle clé dans la création de plusieurs festivals de cinéma locaux, tels que le Festival des films de femmes de Montréal, le Festival international du cinéma chinois et le premier et le plus ancien festival de cinéma LGBTQ du Canada, l'innovant Images et Nations. Mais Suzanne Gérard est surtout connue pour avoir cofondé, avec Puelo Deir, Diversité, la première organisation structurée de la fierté montréalaise, qui a placé Montréal sur la carte gay internationale en 1993 et a contribué à la réputation favorable de notre ville comme destination queer internationale. Suzanne Girard a consacré 22 ans de sa vie en tant que directrice générale de Diversité, où elle a encadré plusieurs générations de jeunes queer, dont moi, jusqu'à la fermeture de Diversité en 2015. Nous nous sommes récemment assis pour une séance de questions-réponses en toute franchise. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la photographie? J'ai terminé mes études secondaires l'année de l'Expo 67. J'ai ensuite suivi un cours de photo avant de commencer le cégep avec des appareils photo et des chambres noires. Et j'ai eu la piqûre. C'était une période culturelle très active à Montréal à cette époque. Tu as aussi enseigné la photographie au Collège John Abbott. J'y ai enseigné la photographie pendant 25 ans. J'ai enseigné un semestre pendant la COVID avant de prendre ma retraite. J'ai adoré enseigner à John Abbott. J'étais aussi coprésidente de leur département d'art médiatique. Lorsque Diversité a pris fin, j'ai enseigné à temps plein. Comment t'es-tu impliquée dans cette exposition? J'ai rencontré l'historienne de la photographie Zoé Tousignan, qui est la conservatrice de la photographie au musée McCord Stewart. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je lui ai parlé du collectif de photographes Plessigraphe que j'ai fondé avec Marie Boudreau et la regrettée Camille Maheu, et Zoé nous a invités à participer à l'exposition. Lesquelles de vos photos sont exposées? C'est une série sur le bar lesbien Labyris, rue Saint-Denis, que j'ai photographiée en 1982 pour une exposition à la galerie Powerhouse. Labyris était un petit bar où tout le monde se connaissait. J'ai pris des photos pendant quelques week-ends pendant que les gens faisaient la queue à l'extérieur. J'ai aussi fait beaucoup de travail en laboratoire parce que j'étais une accro du labo. J'adorais manipuler les images au maximum. Quand je suis passé au numérique, j'ai arrêté toute manipulation d'images. Incroyable, non? Ta célèbre photo de l'ancienne lutteuse professionnelle Denise Babyface Cassidy, en complet blanc, debout dans l'embrasure de la porte de son légendaire bar lesbien du centre-ville de Montréal, Babyface, capture une époque. Comment cette photo a-t-elle été prise? C'était en 1979 et c'était son 41e anniversaire. C'était sa fête d'anniversaire. Les gens se souviennent toujours de cette photo. L'autre photo bien connue a été prise lorsque Denise m'a demandé « Peux-tu aussi me photographier avec ma voiture? » Qu'est-il arrivé à Denise Cassidy? Elle était une snowbird qui vivait en Floride à la fin de sa vie, mais elle est apparemment décédée à Montréal. Elle n'est plus parmi nous. Ton amie, la photographe Camille Maheu, a documenté les 4 premières années de la marche de la fierté diversité. Elle avait 76 ans lorsqu'elle est décédée dans l'incendie à 5 alarmes qui a détruit l'édifice William Watson Ogilvie dans le Vieux-Montréal en mars 2023. Camille avait peur du feu. C'est incroyable de perdre des gens comme ça. L'œuvre de toute une vie de Camille a également été perdue dans cet incendie. Est-ce qu'on a pu sauver quelque chose? Elle a utilisé mon laboratoire et a souvent laissé ses négatifs. Parfois, quand elle voyageait, elle m'apportait des négatifs et disait « Gardez ça pour moi », parce que j'avais toujours de la place. J'ai donc ces négatifs diversité, mais c'est surtout le défilé. Comment protégez-vous vos propres archives? Les archives du Plessigraphe de 1976 à 1987 sont conservées au musée McCord Stewart, et il n'y a pas que les photos lesbiennes. Avez-vous pensé à publier un livre de vos photos historiques? Non, je ne vois pas d'intérêt. Pour l'instant, je me concentre sur les archives en raison de mon âge et parce que beaucoup de mes amis y vont. La photographie a-t-elle été dévalorisée par les médias sociaux? Non. En fait, la photographie a pris de l'ampleur grâce aux médias sociaux. Elle est devenue plus accessible. Tout le monde aime prendre des photos. C'est amusant, mais j'aimerais aussi que les gens respectent les droits d'auteur. Avant que le quartier gay de l'Ouest ne laisse place au village, il y avait quelques bars lesbiens dans le vieux centre-ville de West Village, comme Babyface, Jilly's et chez Madame Arthur. Le village de l'Ouest te manque-t-il? Pour les lesbiennes, il n'y a jamais vraiment eu de village gay. Quand le village s'est déplacé vers l'Est dans les années 1980, le plateau a été développé et colonisé par les lesbiennes à cette époque. Tout le quartier était comme ça. C'était comme une ville. Diversité a mis Montréal sur la carte internationale des homosexuels. C'était une percée et un tournant. À quel point êtes-vous fier de l'héritage de diversité? Je pense que l'héritage dont je suis la plus fière, ce sont les journées communautaires. C'est mon bébé, et c'est resté. Les groupes communautaires se sont vraiment mobilisés, et cela a une saveur différente des journées communautaires que j'ai vues ailleurs, notamment à Sydney, à New York et à San Francisco. En 2012, Diversité a été contraint de déménager hors du village parce que la grande scène de la rue Berry bloquait la nouvelle gare d'autocars de Montréal. Lorsque Gérald de Tremblay était maire, la ville de Montréal a refusé les demandes de Diversité de déménager dans le quartier des spectacles 6 années de suite. Ils vous ont dit « on ne veut pas de ça ici ». Pensez-vous que l'histoire de la fierté à Montréal aurait été différente si la ville avait permis à Diversité de déménager sa grande scène dans le quartier des spectacles? Les célébrations de la fierté sont tellement liées au village, mais comme il est devenu si grand, on ne pouvait plus le faire là-bas. Et ça n'a pas fonctionné quand on a déménagé dans le Vieux-Port. On n'a pas eu de chance avec la météo, et la réaction sur les réseaux sociaux a été négative. Puis, quand Diversité a fermé ses portes en 2015, je veux dire, j'ai l'impression d'avoir échoué. Il m'a fallu très longtemps, des années, pour me remettre de cet échec. Diversité a changé la ville. Je considère donc Diversité comme une victoire. Tu as été une héroïne et une mère pour 2 ou 3 générations de jeunes queer comme moi. Parfois, je rencontre des gens dans des endroits très étranges. J'étais dans une épicerie du Mile End quand j'ai commencé à parler à quelqu'un que je reconnaissais dans la file d'attente et cette personne derrière nous a dit « Vous êtes Suzanne? Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. » Et le gars à la caisse nous regardait, un groupe de gays autour de cette femme, et quand je suis sorti de là, j'ai presque pleuré. Puis j'ai recommencé à penser à diversité. « Bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Maintenant, je sais. Mais ce n'est pas grave. Je n'arrête pas de dire « bon, je n'étais pas seul ». Mais comme j'étais en quelque sorte la figure de proue, c'est toi qui emportes le poids, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est tout. Tu es une légende vivante, Suzanne. Non, je ne me repose pas sur mes lauriers parce que je me dis que je n'en ai pas. Je travaille toujours. C'est une question de savoir si tu en es capable. Tu dois en faire plus. Info. La photographe Suzanne Gérard est en vedette dans l'exposition collective « Battre le pavé, la photo de rue à Montréal » au musée McCord Stewart du 18 avril au 26 octobre. C'était « Montréal à travers la lentille » de Suzanne Gérard, une entrevue réalisée par Richard Burnett, parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue.
Le Québec a atteint une immunité de groupe face au VPH. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne paru le 18 mars 2025 dans Le Devoir. Le programme de vaccination contre les virus du papillome humain, VPH, aurait permis d'atteindre une certaine immunité collective et ce, moins de 20 ans après son implantation au Québec, montre des travaux réalisés à l'Université Laval. Le programme est si efficace que même les jeunes non vaccinés profitent d'une forme d'immunité, a constaté l'équipe de la docteure Chantal Sauvageau. on a montré une réduction des types de VPH les plus susceptibles de mener à un cancer, y compris chez des personnes qui n'ont pas été vaccinées, a résumé la professeure de la faculté de médecine de l'Université Laval. C'est ce qu'on appelle une immunité de groupe. La famille des virus du papillome humain compte plus de 100 types de virus. On dénombre des VPH à faible risque de cancer et une douzaine de VPH à risque élevé de causer des cancers. Les VPH sont principalement transmis par voie sexuelle. Le VPH est présent dans pratiquement tous les cas de cancer du col de l'utérus. Il cause aussi des condylomes génitaux ou anaux, ainsi que des lésions pouvant conduire au cancer de la gorge, du vagin, de la vulve, de l'anus et du pénis. L'équipe dirigée par la professeure Sauvageau a mesuré la prévalence des VPH chez 369 jeunes hommes de 16 à 20 ans non vaccinés contre les VPH et actifs sexuellement, recrutés entre septembre 2020 et août 2022. Ils ont constaté que la prévalence des quatre types du VPH couverts par les premiers vaccins utilisés au Québec était de 0,5%. En revanche, une étude québécoise menée chez des personnes de 18 à 24 ans, avant l'implantation du programme de vaccination, avait révélé que le VPH de type 16 était le plus prévalent dans ce groupe et qu'il avait été détecté chez 16% des hommes. Cela veut dire, a clarifié la docteure Sauvageau, que la circulation des VPH est devenue si faible que même les personnes non vaccinées profitent d'une forme de protection attribuable à l'immunité de groupe. Ce sont des vaccins qui fonctionnent à plus de 95%, a dit la chercheuse. Quand on peut vacciner avant le début de l'activité sexuelle, ça donne les résultats qu'on voit ici quand on a une bonne couverture vaccinale. Aux États-Unis, où la couverture vaccinale est moins répandue, on constate aussi une forme d'immunité collective, mais de moins grande ampleur, a complété la docteure Sauvageau. La recrudescence récente et très médiatisée des cas de rougeole montre bien ce qui peut se produire quand la couverture vaccinale recule, a-t-elle dit. Le programme de vaccination contre les VPH a été déployé au Québec en 2008. Tout d'abord offert aux filles de 9 à 17 ans, il a été élargi aux garçons en 2016. Aujourd'hui, le vaccin protège contre 9 types du virus et est offert aux jeunes de 9 à 20 ans. C'était « Le Québec a atteint une immunité de groupe face au VPH », un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne paru le 18 mars 2025 dans Le Devoir.